David et toute son équipe pour ces beaux chants de louange. Bon matin à vous tous, bon dimanche. Quelle joie de se trouver parmi le peuple de Dieu avec un si grand sauveur. Alors ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles et tourner avec moi à la première épître de Pierre. Premier chapitre. Et notre texte pour ce matin et pour la semaine prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas encore revenu, nous allons considérer les versets 14 à 17. Et vous savez, comme je dis, si le Seigneur tarde, bientôt, comme cela a été annoncé ce matin, nous serons dans notre nouveau bâtiment. Enfin, nous serons chez nous. Et ça, c'est bien. Merci, Seigneur, pour tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Merci pour les frères et les sœurs qui ont travaillé si fort pour justement pour rendre ce beau projet une réalité. Mais j'aimerais vous poser une question ce matin. Quelles sont nos attentes face à ce nouveau bâtiment? Vous savez, normalement, quand nous disons « nouveau », nous attachons certaines attentes à cela. Dans l'exemple classique, le nouvel an. 2015 a été une année pourrie, peut-être pour quelques-uns. Alors, nous espérons, nos attentes, que 2016 apportera des choses meilleures. C'est dans notre nature humaine. Mais est-ce que ça fonctionne comme cela dans le domaine spirituel? Est-ce que c'est parce que nous serons dans un nouveau bâtiment que tout d'un coup, nous serons une église en santé, une église vibrante, une église florissante, vivant en harmonie les uns avec les autres? Si vous pensez comme cela ce matin, désolé de péter votre bulle, comme on dit en bon québécois. En réalité, c'est que dans quelques mois, après l'euphorie de la rentrée, vous risquez de même plus remarquer la couleur des murs, les beaux planchers, le granit, etc., etc. Et comme des enfants, ça va prendre une nouvelle bébelle et une autre bébelle, bien autre. Alors la question que je vous pose et je me pose ce matin, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut plus que juste un nouveau bâtiment? Et j'aimerais vous dire ce matin que nous avons besoin d'un nouveau départ. Ou si vous voulez, une marche renouvelée dans la sanctification, tant individuellement que collectivement. Et j'aimerais juste citer quelques exemples pour vous montrer le parallèle. Souvenons-nous de l'exemple de Jacob. Il a séjourné chez son oncle Laban à l'étranger. Et Dieu l'appelle pour retourner à Bethel, chez lui, pour adorer Dieu. Un nouveau départ. Et écoutez bien ce que Jacob va dire à sa famille. « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et quoi? Purifiez-vous. » Nouveau départ, une nouvelle marche dans la sanctification. Il y a aussi l'exemple de Moïse. Les enfants d'Israël s'apprêtent maintenant à quitter le désert, où ils ont tourné en rang pendant 40 ans, pour entrer dans la terre promise. Et Moïse fait exactement la même chose. Il va leur répéter la loi de Dieu, et les exhorter à la garder fidèlement. Nouveau départ, nouvelle consécration, consécration au Seigneur. Et aussi l'exemple de Jésus. Jésus, juste avant d'aller à la croix, va quitter ses disciples. Eux, ils avaient, même avant le repas, il y avait une chicane pour savoir qui sera le plus grand parmi eux. Et qu'est-ce que Jésus fait? Dans sa prière sacerdotale, il sait qu'il va quitter. Les disciples maintenant vont faire face au monde, comme nous avons vu ce matin, Pierre et d'autres, sans lui. Bien sûr, le Saint-Esprit est là, mais c'est une nouvelle situation. Jésus n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il demande? Père, sanctifie-les. Voyez, nouveau départ. Encore, Jésus met l'emphase sur la sanctification. Mais vous savez, en passant, ce renouvellement, comme je l'appelle, devrait être notre désir à tous les jours et en tout temps. Qu'importe les circonstances. Mais un nouveau départ, c'est souvent très propice pour nous motiver, justement, de rechercher cette nouvelle marche dans la sanctification. Alors, nous allons lire notre texte pour ce matin. 1 Pierre 1, versets 14 à 17. Et le texte dit ceci: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Alors, ça, c'est notre texte ce matin. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais faire quelques remarques. Je ne ferai pas l'exégèse de ce texte verset par verset. Je vais focaliser surtout sur les versets 15 et 16 pour introduire notre sujet, qui est la sanctification, la sainteté. Et la deuxième chose, je parlerai ce matin de la sainteté de Dieu, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, la sainteté de Dieu doit être le fondement de notre recherche de la sanctification. Le texte dit, Dieu a dit ceci: vous serez saints, car la raison, parce que moi je suis saint. Alors notre sanctification est basée sur la sainteté de Dieu. Et deuxième chose, il faut avant tout soigner notre relation verticale avec Dieu si nous voulons, dans notre nouveau bâtiment, entretenir des relations harmonieuses les uns avec les autres sur le plan horizontal. Très important. Alors ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois aspects de la sainteté de Dieu. Et comme je dis, c'est le fondement de notre recherche de la sanctification, c'est la sainteté de Dieu. Et voilà la première chose, j'aimerais parler justement de l'importance de la sainteté. L'importance de la sainteté, si nous allons utiliser la sainteté de Dieu comme fondement de la recherche de notre sanctification, il faut tout d'abord comprendre l'importance de la sainteté. Et à ce sujet, la parole de Dieu nous donne toute une gamme de témoignages. Nous avons le psalmiste qui, dans Psaume 99, 9, dit ceci: exaltez l'Éternel, notre Dieu, car il est saint. L'Éternel, notre Dieu, il est saint. Dans Ésaïe 6, 3, les séraphins sont là devant Dieu. Ils crient l'un à l'autre: saint, 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 et l'Éternel des armées. Le prophète Habacuc qui va dire ceci: n'es-tu pas de toute éternité l'Éternel, mon Dieu, mon Saint? Et même les païens, dans un texte dans 1 Samuel 6 au verset 20, les gens de Beth Shemeth, ce sont le peuple du Philistin qui avait justement pris l'arche d'Israël, avoir été frappés par un jugement de Dieu, ils vont s'exclamer: qui peut subsister en présence de l'Éternel, ce Dieu Saint? Alors que ce soit le psalmiste, que ce soit les prophètes, que ce soit les anges, les païens, ils sont tous unanimes pour dire que Dieu, notre Dieu, est saint. Et vous savez, en passant, la sainteté se trouve chez les trois personnes de la divinité. Le Père est saint, le Fils aussi est saint. Dans Hébreux 7, 26, pas besoin d'y tourner, mais Jésus, notre souverain sacrificateur, est décrit comme étant saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. Et Romains 1, 4 nous dit que Jésus a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon qui? Selon l'esprit de sainteté. Alors le Père est saint, le Fils est saint aussi, l'Esprit est saint. J'aimerais partager avec vous une citation de Stephen Sherlock. Ça, c'est mon puritain préféré. Né en 1628, mais il est bon. Alors, il dit ceci: la sainteté de Dieu est son attribut par excellence. Il est appelé le Saint, le Saint de Jacob, le Saint d'Israël, plus souvent qu'il est appelé le Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas concevoir la nature de Dieu sans elle. Par elle, Dieu jure et avec elle, il remplit la bouche de ses anges. La puissance, c'est son bras. La miséricorde, c'est ses entrailles. Mais sa sainteté, c'est sa beauté. Et avec elle, il embellit tous ses autres attributs. Alors ce matin, c'est réconfortant de penser que sa justice, c'est une sainte justice. Sa sagesse, une sainte sagesse. Sa puissance, une sainte puissance. Sa parole, une sainte parole. Et même quand Dieu exerce ses jugements contre le péché, il fait cela selon sa sainteté. J'aimerais vous poser une question ce matin, et je pose à moi-même aussi. Où sommes-nous face à la sainteté de Dieu? Nous avons vu que la sainteté de Dieu est importante pour Dieu lui-même, mais qu'en est-il pour nous? Quelle importance est-ce que nous attribuons à cet attribut par excellence? Assez pour vouloir en servir comme modèle, comme fondement pour notre propre sanctification. Et cela me mène à poser une autre question. Où sommes-nous dans notre marche, dans notre propre sanctification? Peut-être vous allez me dire, mais écoute, j'ai essayé, puis j'ai abandonné. Peut-être ce matin, vous avez adopté une attitude défaitiste. Après tout, comme on entend souvent, nous ne sommes que de pauvres pécheurs. Peut-être ce matin, vous êtes sur la cruse et vous avancez, non pas dans la sainteté, mais dans la médiocrité. Et si c'est votre cas, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Et cela ne sera jamais la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4 nous dit ceci, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et en passant, la mienne aussi. Et la question se pose, est-ce que nous le désirons aussi, cette sanctification. Alors, l'importance de la sainteté, mais si on va prendre la sainteté de Dieu comme base et fondement de notre propre recherche de sanctification, c'est très important de comprendre la signification de la sainteté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Vous savez, on chante parfois être saint, c'est là mon désir. On le chante. Mais est-ce que nous comprenons vraiment, vraiment, vraiment ce que nous sommes en train de chanter? Être saint comme Dieu, lui, est saint. Alors, le petit Larousse nous donne des indices. La sainteté se définit comme suit, se dit de Dieu en tant qu'il est souverainement pur, qu'il est parfait. Dans le texte hébreu, dans le texte original, ce mot est traduit par pur, séparé, mis à part, consacré. Alors notre Dieu est en trois fois saint et souverainement pur. Il est sans corruption, il est sans défaut moral, il est sans péché. Un beau texte que nous avons dans Deutéronome 32, verset 4, dit ceci, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Psaume 147, 45, 17 ajoute, l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Alors, si ce matin nous pouvons imaginer un lingot d'or le plus pur, ou bien un diamant d'une beauté exquise et scintillante, une lumière d'une blancheur brillante et même aveuglante. Disons-nous une chose, que toutes ces choses ne sont que de faibles comparaisons et pâlissent par rapport à la pureté de notre Dieu. Alors, Dieu est pur. Deuxième chose à propos aussi de Dieu, Dieu est séparé,
du péché.
Dans Ésaïe 59, 2, Dieu va parler à Israël infidèle et il va lui dire ceci, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et vous savez qu'on a parlé de politique ce matin, mais face au péché, Dieu est un séparatiste. Qu'est-ce que ça veut dire séparer du péché? Mais j'aimerais vous dire que qu'est-ce que cela ne veut pas dire. La séparation, dans un contexte spirituel, n'est pas l'isolation. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ, comme je dis, il est saint. Et pourtant, dans Luc chapitre 15, les pharisiens et les scribes vont l'accuser pour dire que cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alors, il n'est pas isolé, la sainteté et être séparé du péché, ce n'est pas d'être isolé, ce n'est pas l'isolation. Séparé du péché veut dire simplement que Dieu ne peut pas être complice avec le péché d'aucune manière, et ni sous aucune forme. Et c'est pourquoi Habacuc, dans Habacuc 1, 13, va dire ceci, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. » Et non seulement que Dieu ne peut être complice avec le péché, mais il démontre justement cette séparation avec le péché en haïssant le péché et aussi en le condamnant et en le jugeant. J'aimerais vous donner deux textes dans Psaume 5:5. Nous lisons ceci, « Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. » Et dans Jérémie 44:4, Dieu envoie son prophète Jérémie pour répondre, pour reprendre son peuple pour leur méchanceté et pour leur dire, ne faites pas ces abominations. C'était un peuple Israël qui était infidèle, qui se donnait à l'idolâtrie. Et Dieu va dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Et vous savez, si nous avons encore des doutes à propos de la façon Dieu traite et regarde le péché, laissez-moi vous donner deux illustrations. Le monde antédiluvien avant le déluge. Et nous savons qu'est-ce que Genèse nous dit, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toute leur pensée de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Et comment est-ce que Dieu a réagi avec cela? Il a dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, etc. Et il a fait. À l'exception de Noé, comme le texte nous dit, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et nous avons deux exemples, les deux villes de Sodome et Gomorre, dont le péché était énorme. Et les deux anges ont dit à Lot, nous allons détruire ce lieu, car Dieu nous a envoyés pour le détruire. Et bien sûr, Dieu a détruit ce ville, il a complètement détruit les deux villes, à l'exception de Lot, sa femme et ses deux filles. On sait que la femme de Lot a péri par la suite à cause de sa désobéissance. Mais bien aimé, Dieu est le péché et la méchanceté, comme le texte nous dit dans Psaume 45. Alors, être saint, séparé du péché, être pur, mais il y a une troisième aussi chose que nous devrions considérer ce matin dans la sainteté, d'être mis à part. Ça, c'est le côté positif maintenant. D'être consacré entièrement à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples de cela. Je vous donne en rafale, nous avons Dieu qui va parler à son peuple Israël. Exode 19, 5, 6. Si vous gardez mon alliance, il va leur dire, vous m'appartiendrez. Alors, c'est là, vous consacrez à Dieu. Entre tous les peuples, et vous serez pour moi, quoi, une nation sainte. Le souverain sacrificateur Aaron et ses fils étaient consacrés au service de Dieu, et Dieu va décrire alors ces hommes plus tard comme étant saints pour leur Dieu. Nous avons les vêtements du souverain sacrificateur, nous avons l'huile pour l'onction, le sabbat, le sanctuaire, et ainsi de suite. Toutes ces choses, parce qu'ils étaient au service de Dieu, utilisés par Dieu, étaient considérés comme étant saints. Mais l'exemple par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui, pendant son ministère terrestre, était entièrement, totalement, complètement mis à part, consacré à Dieu le Père. Nous avons un beau texte dans Jean 6, 38, où Jésus va dire ceci: « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quel modèle de consécration, mis à part pour justement Dieu. Et pendant toute l'éternité, pendant son ministère terrestre, et même encore aujourd'hui, et même dans l'éternité, Jésus était, il est et il sera totalement consacré au Père dans son grande œuvre de rédemption. Et gloire à Dieu qu'il en est ainsi, parce qu'à cause de cela que nous sommes ici ce matin, en train de parler de notre Dieu, puis en train de le remercier, puis nous avons été éclairés à cause justement de cette grande œuvre. Mais à ce stade-ci, j'aimerais focaliser sur la croix. Parce que c'est là, à la croix, qu'on voit, en nous voyant, les trois aspects de la sainteté ensemble et de façon assez claire et assez spectaculaire. Alors, tout d'abord, dans le sacrifice, la pureté du sacrifice, Jésus-Christ, à la croix, est un sacrifice pur. 2 Corinthiens 5:21 nous dit ceci: il n'a point connu le péché. 1 Pierre 2:22 nous dit ceci: il n'a pas commis de péché. Et l'apôtre Jean va déclarer dans 1 Jean 3:5: il n'y a point en lui de péché. Alors, Christ, l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a dit, qui ôte le péché du monde, sur la croix, est là, comme un agneau pur, sans défaut et sans tache, comme nous allons dans 1 Pierre 1, 19. Deuxièmement, à la croix, nous voyons la sainteté de Dieu, pas seulement dans la pureté du sacrifice, mais aussi dans la séparation d'avec le péché. Jésus-Christ, par amour, porte vos péchés et mes péchés en son corps sur le bois. Et qu'est-ce qui se passe? Il est séparé d'avec son Père, et c'est pourquoi il va crier sur la croix: « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en même temps aussi, avec cet abandon vient quoi? Dieu, dans sa séparation avec le péché, qu'est-ce que nous avons vu? Il le condamne et il le juge. Et la même chose aussi arrive au Seigneur Jésus-Christ: il est condamné, il est jugé comme un malfaiteur. Ésaïe 53, 5 nous dit ceci: il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 1 Corinthiens 15, 3 déclare que Christ est mort pour nos péchés. Et en passant, avez-vous remarqué que quand vous lisez le psaume 22, qui est le psaume prophétique, justement, qui parle de la crucifixion, quand Jésus, après avoir posé cette question: mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il va répondre à cette question lui-même. Il va disculper le Père de toute soupçon d'injustice. Et il va même justifier cet abandon en déclarant, verset 4, psaume 22, « Pourtant, tu es le Saint. » Voilà pourquoi Christ a été abandonné. Et parce que Dieu est Saint, parce qu'il est le péché, il le condamne et il le juge. Et Romains 8, 32 nous dit: lui qui n'a même point épargné son propre fils. Et troisièmement, à la croix, nous voyons la sainteté de Dieu dans la pureté, dans la séparation, mais aussi dans la consécration. Jésus-Christ, le Fils obéissant, obéissant jusqu'à la mort, il s'offre en sacrifice. Et parfois, c'est bien, Christ est mort pour nous, mais avant tout cela, laissez-moi vous dire qu'il y avait un besoin encore plus grand. Le péché est une insulte à la sainteté de Dieu. C'est comme si Adam, quand il a péché, avait craché dans le visage de Dieu. Alors, Christ vient pour réparer cette insulte, premièrement, et ensuite, par ce même sacrifice, il ouvre la porte pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est pourquoi le texte dans Hébreux nous dit ceci, il va s'offrir sans tâche à Dieu. À Dieu. Et ça, c'est notre Dieu qui est saint, qui sera saint pour toute l'éternité, parce que le texte nous dit, Jacques 1, 17, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et ça, c'est notre Dieu aussi qui, ce matin, nous exhorte à être saint comme il est saint. Et là, vous peut-être êtes en train de comprendre qu'est-ce que cela implique dans notre propre sanctification. Je ne veux pas me devancer. La semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir justement le côté pratique. Et troisièmement, il y a une application pratique à ce que je vous dis ce matin, les implications de la sainteté de Dieu. Et comme je dis, si on va faire de cette sainteté le fondement de notre recherche, de notre propre sanctification, parce que Dieu nous le demande, soyez saints car je suis saint, il faut aussi bien comprendre les implications de la sainteté. Et tout d'abord, cela devrait être évident dans notre manière de nous approcher de Dieu. Et comment nous devrions faire cela avec révérence et en adoration. Vous avez, j'ai fait référence aux séraphins qui sont devant le trône de Dieu. Quand Esaïe dit ceci, il voit le Seigneur sur un trône très élevé, le pan de ses robes remplit ce temple. Et il y a des séraphins qui se volent et qui crient l'un l'autre. Mais il donne un détail. Il dit aussi qu'il y a 6 ailes. Et avec 2, ils vont se couvrir la face. Et avec 2, ils vont se couvrir les pieds. Et cela nous parle justement d'un geste profond de révérence et d'adoration. Et Psaume 29 nous exhorte comme ceci, « Donnez au Seigneur la gloire à son nom. Prosternez-vous devant le Seigneur quand éclate sa sainteté. » Et Parole de vie traduit ce texte comme suit. Voici le Seigneur, il est saint, adorez-le avec respect. Je n'ai pas le temps ce matin d'approfondir justement ce sujet, la révérence et le respect que nous devrions avoir face à notre Dieu, individuellement et aussi collectivement, mais faisons attention. Oui, Dieu est notre sauveur. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est un ami fidèle, mais il est aussi un grand Dieu, un saint. Et même les anges, dans sa présence, n'osent même pas regarder sa face. Et ils vont couvrir leurs pieds pour démontrer, comme ici, ils ne sont même pas dignes d'être dans sa présence. Alors, soyons révérents. Avec la parole de Dieu. Soyons révérents dans notre façon de nous approcher de Dieu. Collectivement aussi, je pense que parfois, on pourrait même apprendre des fois de l'église populaire. Parce que quand vous allez dans ces endroits-là, je suis allé pour une funéraille, à cause justement du bâtiment, il y a une certaine air de révérence. Mais nous, ce n'est pas le bâtiment qui est important, c'est notre Dieu qui est là, qui est parmi nous, et que nous puissions lui donner justement cet respect et révérence qui est dû à son nom. Deuxième chose aussi, un impact que la révérence devrait avoir, ce serait, la sainteté de Dieu devrait avoir sur notre approche, mais aussi sur notre attitude. Et ici, j'ai mis cela dans deux, un point de vue négatif, évitant une attitude de méfiance et de critique à l'égard de celui qui est saint. Et ne nous ressemblant pas à Adam, qui était coupable de désobéissance, il cherche à jeter le blâme sur Dieu en lui disant, nous rappelez l'histoire dans Genèse, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'âme et j'en ai mangé. Dans d'autres mots, je suis coupable, Dieu, mais toi, Dieu, tu es aussi coupable que moi, parce que sans elle, cette femme que toi, tu m'as donnée, je n'aurais pas péché. Et ça, c'est une atteinte à la sainteté de Dieu, il était en train d'attribuer justement une injustice à Dieu. Et quel contraste avec Job. Vous savez, Job, il a vécu des choses extrêmement difficiles. Et peut-être aussi, quelques-uns de vous ce matin, vous êtes en train de vivre des choses difficiles. Et Job, quand il était dans ses souffrances, il a dit ceci, « Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Il y a un beau texte dans Jacques 1, 13 qui nous dit ceci, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Et vous savez la réponse, parce que notre Dieu est saint. Alors, s'il y a une attitude à éviter, il y a aussi une attitude à cultiver, côté positif. La sainteté de Dieu devrait engendrer chez chacun de ses enfants une attitude de confiance et de dépendance. Et combien Dieu serait glorifié par une telle attitude. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce que cela veut dire dans le pratico-pratique. Ça pourrait se manifester par une vie de prière. Où est-ce que nous approchons de Dieu avec confiance pour lui demander de pourvoir à nos vrais besoins. Et je dis vrais besoins. Parce que nous voulant nos vrais besoins. Et à ce sujet, nous avons Matthieu 7, 7. Le texte dit, « Demandez et l'on vous donnera. » Et là, il y a l'argumentation. Le Seigneur Jésus-Christ va dire ceci, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ?» Et nous savons qu'aucun parent ferait ça à son enfant. Et là, le Seigneur continue, il va dire, si donc méchant que vous êtes, méchant que nous qui sommes loin de la sainteté parfaite de Dieu, nous savons comment donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père, qui est sans péché, qui est saint, qui est dans les cieux, donnerait-il de bonnes choses à ceux qui les lui demande. Et vous savez, parfois, j'entends des gens qui sont déçus avec leur vie chrétienne. Ils vont adopter une approche où ce qu'ils vont dire, je ne lui demanderai plus rien. Combien ça devrait attrister le Père? Et combien ces personnes-là se privent de grandes bénédictions? Que la sainteté de Dieu soit pour nous le fait qu'il est un pain qui est saint, qui est sans péché. Et si nous savons donner des bonnes choses, nous, à nos enfants, combien plus notre pain qui est juste et saint donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Que ce soit pour nous une motivation de nous approcher de Dieu avec confiance, avec assurance du trône de la grâce, mais aussi avec confiance. Trouvez grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, une attitude de confiance dans nos prières, une attitude de confiance aussi dans nos peurs, parce que nous pouvons vivre des situations qui sont difficiles. Où est-ce que nous sommes justement effrayés? Nous avons des inquiétudes et face à des situations, des tempêtes de la vie. Nous pensons aux disciples qui étaient dans la barque et où le vent était contraire. Et tôt ou tard, on va rencontrer ces vents contraires. Et Dieu va dire ceci à Israël. Sois donc sans crainte. Quel beau texte. Ô petit Israël, car je viens à ton aide. L'Éternel le déclare. Celui qui te délivre, c'est le Saint d'Israël. C'est comme si Dieu a dit, écoute, je mets mon honneur sur la ligne. Vous pouvez me faire confiance. Vous êtes devant des situations difficiles. Soyez sans crainte parce que celui qui délivre son nom, Ce n'est pas le bon Dieu, c'est le saint Dieu, le Dieu qui est saint. Et ça, c'est mon attribut par excellence. Vous pouvez me faire confiance pour cela. Et troisièmement, une attitude de confiance dans nos peines. Et vous savez, on a parlé justement de ces personnes qui ont connu des deuils récemment. Il y a eu deux samedi dernier, puis samedi avant aussi. Et tôt ou tard, on va y passer, parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous avons une belle promesse face à nos peines dans Ésaïe 57, 15. Je vous lis le texte. Voici ce que dit le Dieu très élevé, qui s'appelle qui? Le Saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de celui qui a l'esprit abattu et de vivifier le cœur des hommes accablés. Quel beau texte! Quel beau texte! Dieu nous dit, faites-moi confiance. Par ma sainteté, vous êtes accablés, vous êtes dans les peines, soyez rassurés que je vais vous secourir, je vais vous aider. Alors pour terminer, voici alors la sainteté de Dieu, l'importance, la signification, les implications. Et la semaine prochaine, comme nous verrons, notre propre sanctification, dont le fondement doit être la sainteté de Dieu. Je termine avec ceci. Ce matin, si vous êtes ici et vous n'êtes pas sauvé, vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur personnel, la sainteté de Dieu vous interpelle. Car par elle, vous serez jugé si vous mourrez dans vos péchés. Nous avons vu cela, Dieu et justement la méchanceté. Mais comme nous disons souvent, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Alors, il n'est pas nécessaire de mourir et d'être séparé d'un Dieu trois fois saint pour l'éternité. Jésus-Christ, comme nous avons vu, est mort à notre place. Il est pur. Il a été séparé de Dieu. Et le pécheur qui confesse ses péchés en se repentant, qu'est-ce que Christ fait? Il est lavé de ses péchés. Et la pureté de Christ est transférée aux pécheurs. Et le Seigneur vous donne et nous donne une vie nouvelle que nous pouvons vivre maintenant, désormais, consacrée à lui. Et cela pour sa gloire. Si vous ne connaissez pas le Christ ce matin, c'est la décision la plus importante que vous avez à prendre. Parce que votre éternité en dépend. Ce matin, je vous inviterai alors de prendre Christ comme votre sauveur. On va prier. Seigneur, merci et merci pour ta personne, ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est pur, qui est séparé du péché. Merci pour l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a démontré qu'est-ce que c'était de vivre une vie consacrée au Père. Et merci Seigneur pour toutes les riches bénédictions qui ont découlé à cause de ton serviteur parfait par excellence. Alors ce matin, tu nous appelles aussi d'être saint comme toi tu es saint. Et Seigneur, donne-nous cette grâce alors de bien saisir qu'est-ce que cela implique et aussi avoir le désir de le mettre en pratique dans nos vies. Et s'il y a quelqu'un ce matin ici qui ne connaît pas Seigneur, qui n'a pas encore cette assurance que s'il quitte justement cette vie terrestre, qu'elle passera l'éternité avec toi. Seigneur, nous te prions, nous te supplions de te révéler à une telle personne. Et de donner, Seigneur, cette révélation pour qu'elle puisse dire, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et nous savons que ta parole nous dit que cette personne-là ira justifiée dans sa maison, Seigneur, parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, sépare-nous avec ta bénédiction et garde-nous, Seigneur, sur le chemin de retour chez chacun de nous dans nos foyers respectifs. Nous demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.